Et c'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
À la une, le prince du foot reste au parc. Kylian Mbappé joue les prolongations, 3 ans de plus au PSG. Leonardo, lui, est limogé. En Espagne, les supporters du Real Madrid sont en colère. Les autres titres, Christelle.
Au travail, premier conseil des ministres demain matin. Première réunion à Bercy avec l'ensemble des acteurs économiques pour lutter contre l'inflation. Les PME se sentent fragilisées. 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, une somme colossale débloquée par Joe Biden. Sur le terrain, la situation est contrastée entre l'Est et le reste du pays. Et puis nous irons à Cannes pour un film grinçant et jubilatoire sur le monde du luxe et de la mode, signé du réalisateur suédois déjà consacré Ruben Östlund.
Et puis notre invité, à 8h20, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David, qui viendra nous parler de biodiversité. Pourquoi ? Parce que la journée du 22 mai lui est consacrée.
France Inter.
Il reste. Mbappé sera au PSG jusqu'en 2025. Et hier soir, après des semaines de suspense sur un éventuel départ vers le Real Madrid, le Parc des Princes a chaviré.
Bonsoir à tous. Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil.
Et en plus, Kylian Mbappé, qui est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde, s'est offert un triplé marquant 3 des 5 buts face à Metz. Il devient le joueur le plus puissant de l'équipe, plus que Messi et Neymar. C'est ça qui l'a fait changer d'avis, sans doute aussi une forte somme d'argent. Le directeur sportif du PSG, lui, fait les frais de cet accord. Leonardo a été limogé juste après le match. Jusqu'au bout, l'Espagne a cru voir arriver le prodige parisien. Le président de la Liga a dénoncé hier une insulte au football faite par le PSG malgré des pertes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Et à Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, les supporters l'ont mauvaise.
Mbappé est devenu en quelques heures persona non grata à Madrid. Même si ces derniers jours le pessimisme semblait l'emporter, beaucoup de supporters madrilènes comme Gabriela y croyaient encore.
J'ai été surprise. Jusqu'au dernier moment, j'étais persuadée qu'il allait venir. Je pense qu'il n'a pas agi de la meilleure façon. C'est vrai que l'argent fait bouger le monde, mais je pense qu'en fin de compte, pour sa carrière professionnelle, il serait préférable pour lui de choisir le football et non pas l'argent.
Ce qui revient le plus dans les conversations des supporters, c'est le manque de parole du joueur du PSG qui avait pourtant dit oui au Real il y a quelques jours. José est très en colère.
C'est très moche. Je pensais que c'était quelqu'un de plus mûr, mais je vois que c'est un enfant, sans quoi il aurait dû le dire il y a 2 mois. Mais il ne faut pas qu'il s'inquiète, car le Real va continuer de gagner des Coupes d'Europe et lui, on verra quand est-ce qu'il remporte la première. C'est honteux que même le président de la République ait pris part à cette histoire. Et c'est honteux qu'il laisse le PSG faire tout ce qu'il veut, malgré la dette qu'il a eue cette année. J'aimerais bien qu'on m'explique.
Les supporters du Real ne veulent plus entendre parler de Mbappé. Ils préfèrent penser à l'avenir et à la finale de la Ligue des Champions qui se jouera samedi prochain au Stade de France. Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, France Inter.
Et l'Espagne a aussi essuyé une défaite majeure chez les femmes. Les joueuses de l'équipe de l'Olympique Lyonnais ont remporté la Ligue des Champions en battant Barcelone 3-1. Elles s'adjugent leur 8e Ligue en 10 participations.
Premier conseil des ministres, ce sera demain matin à 10h pour le gouvernement d'Elisabeth Borne.
Moi, je ne mentirai pas aux Français, déclare la nouvelle première ministre ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Elle évoque la réforme des retraites. Ceux qui voudraient faire croire que la réforme n'est pas indispensable ne disent pas la vérité, explique-t-elle, en faisant allusion aux promesses de retraite à 60 ans proposées par Jean-Luc Mélenchon. Mais la priorité reste la lutte contre l'inflation. Les acteurs économiques seront reçus dès demain à Bercy par Bruno Le Maire pour protéger nos compatriotes efficacement contre l'inflation, dit-il. Chacun doit participer au combat. Maxime Debs.
La phrase de Bruno Le Maire hier, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, l'a entendu. Voilà sa réponse.
Quand Bruno Le Maire dit qu'il va avoir besoin de tout le monde, nous, on va avoir besoin aussi de l'État.
Car si les patrons doivent aider à trouver des solutions contre l'inflation, ils vont aussi devoir rembourser les prêts garantis par l'État contractés durant le Covid. Merci déjà de rallonger les délais, répondent les chefs d'entreprise. L'une des idées serait qu'ils versent des primes à leurs salariés. Le montant des primes Macron, qui pourrait tripler d'ici l'été jusqu'à 6 000 euros. Bonne idée, mais qui a ses limites.
6 000 euros par an pour une petite entreprise, pour tous les salariés d'une entreprise, ça, malheureusement, ça existera très peu. Probablement, certaines grandes entreprises sont en capacité de le faire, mais dans les TPE, je vous garantis qu'il y en aura très peu et c'est dommage.
Même diagnostic pour Dominique Métayer, le président de l'UDP qui représente 3 millions de petites entreprises.
On a vu que le SMIC avait fortement progressé et qu'il soit indexé sur l'inflation ne paraît pas utopiste, mais il faut pouvoir la répercuter au fur et à mesure. Donc, il va nous falloir un petit peu de temps et de la concertation pour que tout ça puisse progresser d'une façon temporisée et structurée pour ne pas rajouter de l'inflation à l'inflation là où elle n'a pas lieu d'être.
Et ce dernier de rappeler que l'inflation est l'affaire de tous, des salariés mais aussi du patron qui, dans ce contexte d'augmentation des coûts, doit aussi se payer un salaire.
Maxime Debs, l'est de l'Ukraine pilonné par les forces russes. Le président Zelensky reconnaît dans sa dernière vidéo que la journée d'hier a été difficile dans le Donbass. La Russie a par ailleurs détruit hier du côté de Kiev un stock d'armes livré par les Occidentaux. Mais la situation est contrastée dans le pays. Nathanaël Charbonnier, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Kiev. Faisons le point avec vous.
La ville de Mariupol est peut-être tombée, mais Kharkiv résiste. La deuxième ville du pays est parvenue non seulement à ne pas sombrer, mais en plus elle a repoussé l'ennemi. Une victoire que Rulsan salue en espérant qu'elle serve de leçon pour le reste de l'Ukraine.
Kharkiv reste vraiment une ville ukrainienne et le sud et l'est du pays vont revenir à l'Ukraine. Comme le Donbass, les villes de Donetsk, Lugansk, Mariupol ou encore la Crimée. Tous seront ukrainiens.
Mariupol tombé, Kharkiv qui résiste, reste quand même des victoires russes. Hier, Moscou a annoncé avoir détruit un important stock d'armes à l'ouest de Kiev. Des annonces qui ne déstabilisent pas pour autant la population ukrainienne. Il faut dire que dans le pays, tout le monde est concerné par cette guerre. Yuri explique ainsi que la victoire est la seule issue, car plusieurs membres de sa famille combattent actuellement.
J'ai mon frère là-bas. Il y a aussi mon fils qui est avec l'armée. Et bien sûr, je crois à une victoire après l'exemple héroïque des défenseurs de Mariupol, qui est une chose unique dans l'histoire.
Et c'est aussi la force des Ukrainiens que de voir la victoire partout. Il faut dire qu'elle souffle déjà dans l'ouest du pays, où la vie est presque redevenue normale. À Kiev, Marc Garvenès, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Joe Biden est indésirable en Russie. Après avoir signé une aide colossale de 40 milliards de dollars, la Russie a publié une liste de 963 personnalités interdites d'entrer dans le pays. Y figure donc le président américain, son ministre des Affaires étrangères, mais aussi l'acteur Morgan Freeman. On lui reproche d'avoir enregistré en 2017 une vidéo dans laquelle il affirmait que la Russie orchestrait un complot contre les États-Unis. Un drame hier en Isère. 5 personnes, dont 4 membres d'une même famille ont été tués dans l'accident d'un avion de tourisme près des Adrets, dans le massif de Belledonne. Le crash a eu lieu juste après le décollage. Cette famille effectuait un baptême de l'air. Un enfant figure parmi les victimes. Sa plongée dans l'art contemporain lui avait valu une palme d'or à Cannes en 2017 avec The Square. Le réalisateur suédois Ruben Östlund revient cette année sur la croisette et applique son humour grinçant à un autre milieu, cette fois celui du luxe et des influenceurs. Le film s'appelle Sans filtre, le bien nommé Corinne Pellissier.
Dans un musée au sport d'hiver ou cette fois-ci sur un bateau de croisière, Robert Östlund sait s'y prendre décidément pour révéler le monstre en chacun de nous. Un couple ici d'influenceurs dans le milieu de la mode, invités pour un voyage de luxe. Ils sont jeunes, ils sont beaux, pleins d'idéaux, mais obsédés par le pouvoir et par l'argent, tout comme les autres passagers de cette fable cynique et hilarante, taillée pour dénoncer l'hypocrisie dans le monde sur les rapports de classe.
Je voulais vraiment une approche marxiste, montrer à quel point notre comportement varie en fonction de notre position sociale. Dans la mode, c'est pareil. Le sens de la hiérarchie est très fort, c'est comme une micro-société.
Can you relax your triangle of sadness? Okay. And open your mouth, you look a little bit more available.
Et j'adore quand les situations dérapent, quand le vernis social explose pour laisser apparaître la véritable humanité qui est ici à vomir au sens propre.
Avec ses images de débauche, sa BO très rock et son humour caustique, Ruben Östlund signe un film réussi à la tonalité très politique qui devrait beaucoup plaire au jury avec Woody Harrelson dans la peau d'un commandant de bord marxiste.
Un commandant de bord marxiste, je voudrais savoir
à quoi ça ressemble exactement.
Suite de la compétition aujourd'hui avec l'entrée en lice du deuxième film français, Les Amandiers, signé Valéria Bruni-Tedeschi.
Et on retournera sur la croisette avec notre invitée tout à l'heure à 7h50, la réalisatrice Charlotte Lebon. Merci Christelle Robière, on vous retrouve tout à l'heure, oui, à 8h. Un coup d'œil sur le temps.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski, dites-nous tout sur cette alerte aux orages, en particulier dans la moitié sud du pays.
Et oui, elle concerne 13 départements, donc situés entre la Vienne, la Loire et la Gironde, placés en vigilance orange aux orages, potentiellement puissants, générant de la grêle et de fortes rafales. Il faut dire qu'il va à nouveau faire très chaud aujourd'hui dans la moitié sud, avec une moyenne de 33 degrés. Une vague de forts orages va débuter en début d'après-midi sur l'Auvergne, et puis gagner généralement le centre-est en fin de journée, tandis qu'une seconde vague orageuse va gagner en deuxième partie d'après-midi le quart sud-ouest, puis gagner progressivement ce soir et la nuit prochaine vers le Poitou-Charentes, le centre, le Val-de-Loire et le Limousin. Dans la partie nord, où l'air sera plus respirable avec des températures moyennes de 25 degrés, on n'échappera pas tout à fait aux ondées ce matin sur le quart nord-ouest et parfois aux coups de tonnerre en fin de journée entre le nord de la Loire et le quart nord-est. Seul le pourtour méditerranéen va conserver un temps très calme, donc très calme, très ensoleillé également.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.